Vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture, il est 7h41.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Ainsi, quelques jours après s'être emparé de Ramadi, chef-lieu de la province d'Anbar en Irak, les djihadistes du groupe État islamique donc ont annoncé contrôler hier la totalité de la ville syrienne de Palmyre. Célèbre, on le sait, pour son site archéologique, mais aussi pour les prisons de Bachar al-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'État islamique contrôle désormais plus de la moitié du territoire syrien. Le groupe fondamentaliste sunnite a ainsi pris pied également en Libye, où il renforce son contrôle sur Sirte, la ville d'origine de Muammar Kadhafi. Et puis, l'Observatoire des droits de l'homme rapporte aussi hier soir que l'État islamique a pris le contrôle du dernier point de passage entre la Syrie et l'Irak, qui était encore aux mains des gouvernementaux à 240 km de Palmyre. Les forces gouvernementales syriennes sont retirées du point de passage, désigné sous le nom de Al-Walid, du côté irakien de la frontière, dans la province syrienne de Homs. Et enfin, dans un communiqué diffusé hier sur Twitter, l'État islamique dit donc avoir pris le contrôle total de Palmyre, y compris de la base aérienne, de sa prison, à la faveur, je les cite, de l'effondrement des forces du président Bachar al-Assad. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Nous évoquions la question de Palmyre avant les événements d'hier, c'était mercredi matin, avec Jean-Pierre Filiu et Maurice Sartre, pour comprendre au fond l'enjeu archéologique, historique de Palmyre. Mais enfin voilà, les choses sont faites, la messe est dite, désormais Palmyre est contrôlée par Daesh. Faut-il en conclure que désormais, le but, l'objectif, c'est 240 km plus loin, Damas?
Oui, c'est Damas l'objectif, à la fois pour Daesh, bien sûr, mais aussi pour l'autre coalition de rebelles, qu'on appelle en arabe désormais Jabhat al-Fatah, c'est-à-dire le front de la conquête, et qui est une sorte de rassemblement de diverses organisations rebelles, parmi lesquelles il y a la branche locale d'Al-Qaïda, Nosra, il y a des frères musulmans, il y a ce qui reste de laïcs, qui sont rassemblés par les Saoudiens, par les Turcs et par les Qataris, qui ont fait taire toutes leurs divergences. Vous vous souvenez qu'au début des révolutions arabes, les Saoudiens ne voulaient pas entendre parler des frères musulmans puisqu'ils menaçaient leur hégémonie sur le monde sunnite. Et là, face à la fois au danger iranien et au danger chiite qui est matérialisé par la perspective du deal entre l'Iran et le monde occidental à la fin du mois de juin, et aussi parce que le régime Assad a montré des signes d'affaiblissement considérables ces dernières semaines. L'idée, c'est maintenant d'attraper Damas, de faire tomber Damas, et cela avant que Daesh ne s'en empare, puisque la chute de Damas, c'est dans l'eschatologie sunnite quelque chose d'extrêmement important.
Vous avez même écrit l'article il y a quelques jours, prévoyant la chute de Damas, en disant « la chute de Damas, c'est la bataille d'Armageddon ».
Oui, c'est ça. C'est dans le. Si vous regardez par exemple les sites djihadistes français en ligne, comme Ansar ul-Haq, qui sont la nourriture de nos 1600 compatriotes qui partent ou vont partir faire le djihad en Syrie, dans ce qu'ils appellent au pays de Cham, vous verrez des sites qui sont pleins de collections de hadiths, de récits du prophète, qui expliquent que c'est la grande bataille finale, c'est l'arrivée de l'heure qui va déclencher la victoire de l'islam à travers le monde. Alors, vous avez tout.
Donc, on est sur un enjeu symbolique très fort.
Extrêmement
fort. D'idéologie, de symbole très fort.
C'est, si vous voulez, c'est la conclusion du départ vers la Syrie. Parce que contrairement à la Libye ou au Mali ou ailleurs, la valeur symbolique de ce qu'on appelle en arabe le Shem, c'est-à-dire donc, en arabe, ça veut dire la gauche, si vous voulez, parce que la géographie symbolique de l'islam traditionnel n'est pas orienté est-ouest, mais nord-sud. C'est-à-dire, vous avez le Sham qui est à gauche, ce qui veut dire Shemel, le nord, la gauche, et le Yémen, Yamin, à droite, le sud. Il faut vous mettre dans cette...
Détournez-vous
par rapport à l'angle droit. Et donc, on annonce d'ailleurs dans les prophéties que du feu viendra de la Hadramaut, c'est-à-dire du sud du Yémen, qui est aujourd'hui le lieu de la guerre, qu'il y aura la guerre partout, mais que c'est au Cham que l'Antéchrist va apparaître, et ensuite Jésus descendra par un minaret, dirigera la prière, l'islam va gagner partout. Donc vous avez tout ça, c'est très important parce que, si vous voulez, ça nourrit un imaginaire dans le monde sunnite en particulier.
L'imaginaire qui est... d'une résolution, d'une clé à l'avenir du monde, quoi.
Voilà,
pour un monde meilleur, allons à Damas.
Oui, oui, c'est ça. Alors, parce qu'en fait, l'ambiguïté, c'est que, en arabe, le terme Sham signifie à la fois la Grande Syrie, le Liban, le Levant, pardon, excusez-moi, comment on dit en français, mais ça veut dire aussi la ville de Damas. En dialecte ou dans la langue classique, on dira Shem, ça veut dire la ville de Damas. Hein. Alors, le terme utilisé par la langue grammaticale, c'est Dimashq, qui donne, qu'on a en français dans Damasquiné, par exemple. Mais Roh Shem, ça veut dire va à Damas. Et donc ça, c'est très important symboliquement. Pour qui aussi? Pour les Saoudiens. Parce que si Damas tombe aux mains de Daesh, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'Arabie Saoudite, tout d'un coup, va se trouver avec une concurrence symbolique énorme pour son contrôle sur les ressources, sur l'hégémonie du sunnisme. Or, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, dans la péninsule arabique, et notamment en Arabie Saoudite, la popularité de Daesh est très grande. Parmi les roturiers, parmi ceux qui ne veulent pas de la dynastie. Et donc, il y a un enjeu de politique interne très important, et c'est pourquoi, depuis que le roi Salman a pris le pouvoir, il a éliminé tous les conseillers de son frère qui avaient flirté avec Daesh, qui considéraient qu'il valait mieux s'allier avec Daesh contre les frères musulmans plutôt que le contraire. Il s'est rabiboché avec le Qatar et la Turquie, mais la pression, ça n'a pas l'air de marcher très bien pour l'instant, sur le maréchal Sisi en Égypte, pour éviter que celui-ci ne condamne trop lourdement les frères musulmans. Il fait le contraire et on entend des mots très durs sur l'Égypte aujourd'hui dans les milieux officiels et para-officiels saoudiens. Et du coup, la bataille de Damas est un enjeu symbolique énorme. Maintenant, les Iraniens vont mettre certainement énormément de ressources pour éviter que ça ne tombe, parce que s'ils arrivent à la négociation avec le régime d'Assad qui s'est effondré, et Damas qui est tombé, évidemment, vous aurez un Iran considérablement affaibli.
Alors, avec nous, hein, pour nous accompagner, une des spécialistes, évidemment, un grand reporter à France Culture, Claude Guibal. Bonjour Claude.
Bonjour Marc.
On évoquera les questions géopolitiques de diplomatie internationale en deuxième partie des matins. Poursuivons sur Daesh. Gilles Kepel, un très bon dossier dans La Croix de ce matin. 4 pages, la une, avec la une sur cette actualité, et notamment ce aussi, lit-on sous la plume de Dorian Malovitch et Olivier Thalès, qu'au fond, malgré les bombardements occidentaux, je les cite, hein, Daesh a réussi à passer du financement classique d'une organisation terroriste à l'économie d'une entité étatique. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, pas bien vu venir, et qui, là aussi, serait un ressort assez inquiétant d'une vraie structuration, d'une vraie structure?
En effet, ces dernières semaines, on avait l'impression que Daesh était sur le repli. Parce que...
Ce que faisaient croire un peu les Américains,
oui,
par leurs
interventions. Oui.
Et puis finalement...
Les bombardements américains, la coalition avait semblé frapper assez durement les choses. Ils avaient perdu la ville de Tikrit en Irak. Et puis, il semblait que surtout, les bombardements avaient détruit leur ligne de communication, puisque le problème de Daesh, c'est qu'il doit se battre sur 2 fronts, à la fois à l'est contre les Iraniens et les milices chiites irakiennes, ou l'armée irakienne, et à l'ouest, pardon, contre les autres rebelles syriens et contre le régime d'Assad. Et pour ça, il doit faire passer en permanence des gens d'un côté à l'autre, c'est pour ça qu'ils se sont mis au Haraka, qui est au milieu. Et on pensait que leur mobilité avait été affectée. On avait vu des appels du calife, encore tout récemment, calife entre guillemets, Abou Bakr el-Baghdadi, appelant les musulmans du monde à venir tous, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait de plus en plus de morts. Vous savez que parmi les 800 Français qui sont supposés être là-bas, décomptés par les services secrets, il y a plus de 100 morts désormais. Tous ceux qui ne servent à rien comme combattants sont envoyés dans les opérations suicides très vite. Donc, on voyait un mouvement sous tension, et là, visiblement, il a trouvé des ressources pour se redévelopper. Ils ont pris Ramadi et la victoire de Palmyre, même si sur le terrain elle ne représente pas grand-chose, la ville était extrêmement bien défendue. Néanmoins, c'est une avancée symbolique immense. Alors bien sûr, parce que Palmyre, c'est Palmyre.
Les troupes de Damas se seraient effondrées et retirées sans résistance.
C'est ce que dit l'Observatoire des droits de l'homme. Et il faut bien voir que Palmyre aussi dans la géographie symbolique de l'Orient, c'est très important. C'est une ville caravanière, c'était un empire indépendant. Mmh. Si vous voulez, Palmyre, c'était au fond, celui qui contrôlait Palmyre contrôlait l'accès à l'empire adverse, exactement.
Les deux côtés.
C'est entre Byzance et l'empire perse. L'empire et là, ceux qui viennent de l'Est, c'est-à-dire Daesh, contrôlent Palmyre. Donc la route de Damas et la route de Homs sont ouvertes.
Et question un peu naïve, mais elle est comment la route de Palmyre à Damas? C'est facile, c'est plat, c'est vallonné, c'est montagneux,
il faut
c'est
passer
quoi
la route, comment on y va? La route passe par Homs, mais vous pouvez sinon, en fonction de votre équipement, couper à travers le désert, si vous voulez. Ouais. Donc ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui.
Claude Guibal.
Effectivement, cette prise de Palmyre, comme vient de le souligner Gilles Kepel, est essentielle parce qu'elle a cette force symbolique de cette ville jonction, effectivement, entre l'Irak, la Syrie, et qui mène aussi vers la côte méditerranéenne. Ensuite, puis elle a ce poids symbolique aussi dans la mémoire des sunnites syriens, avec cette fameuse prison, la prison de Tadmor, qui se trouve à Palmyre et qui est, si vous voulez, chez les sunnites, l'équivalent d'Abu Ghraib, de Guantanamo, tellement le passé sinistre de cette prison a marqué les esprits. De nombreux opposants et des islamistes, notamment, y ont été enfermés, torturés. Et ça a été lieu d'un grand massacre en 1980, effectivement, au lendemain d'un attentat raté contre Hafez al-Assad, où un millier de prisonniers a été tué pendant la nuit. Donc il faut voir que la prise de cette ville est importante. Le choc psychologique aussi. Et aujourd'hui, il faut bien avoir conscience qu'il y a cette course à l'échalote aujourd'hui pour Damas, effectivement, entre deux organisations ou deux groupes djihadistes concurrents, qui sont, comme Gilles Kepel l'a dit, Daesh, et puis ce front de la conquête qui est donc maintenant et qui occupe le nord-ouest de la Syrie. Et le premier qui va dire en route pour Damas, on imagine aussi l'effet de panique que cela va provoquer, parce que pour l'instant, pour un groupe Daesh qui est censé être contré par une coalition et par une armée, qu'est-ce que ça serait si c'était pas le cas? Parce que là, pour l'instant, l'impression c'est que la route est ouverte.
Gilles Kepel.
Oui, symboliquement c'est très fort. C'est aussi, je crois, Hubert Védrine en a parlé tout à l'heure avec vous. C'est aussi quelque chose qui souligne les manquements politiques de la coalition internationale, avec des alliés qui vont dans tous les sens, avec les États-Unis qui sont engagés aujourd'hui dans une volonté de faire revenir l'Iran sur la scène internationale, ce pourquoi les Saoudiens sont prêts à mettre tous leurs moyens afin d'empêcher les choses, la France qui aujourd'hui est complètement engagée avec l'Arabie Saoudite, qui n'a plus de politique à moyen terme dans la région, qui est juste une politique opportuniste. Bon, on vend des armes, c'est très bien, ça fait des emplois, qui ne s'en réjouira pas. Mais le problème, c'est de savoir ce qu'on fait avec la perspective de l'Iran qui revient et qui va changer effectivement. Là, si vous voulez, ce qui est derrière tout ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Quel type de vaste redistribution des cartes allons-nous voir au Moyen-Orient après l'été, si vous voulez?
Alors ça, nous essaierons de déplier toutes ces cartes-là dans la deuxième partie des matins. Encore un mot sur la situation stricto sensu entre Palmyre et Damas. Mais toujours, je me réfère au numéro de la Croix de ce vendredi 22 mai. Un spécialiste de la Syrie, Aaron Lund, dit que tout de même, en dépit des revers subis par le régime de Bachar el-Assad, Bachar el-Assad reste malgré tout l'acteur le plus puissant dans le conflit syrien. Ça paraît paradoxal, mais est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il reste puissant parce que de gré ou de force, il faudra quoi? Alors, le défendre contre Daesh?
Mais c'est bien le piège dans lequel il a mis ses adversaires. Depuis déjà maintenant de longs mois, Bachar el-Assad explique, bon, je ne suis peut-être pas terrible, mais regardez en face, c'est quand même épouvantable. C'était de tout le sens de l'entretien qu'il a mené de bout en bout avec un de vos confrères
pour
de
France
la télévision publique. Ouais, oui, c'est
ouais.
Ça, c'était une démonstration très frappante de cette rhétorique. Alors, est-ce que celle-ci tient
Est-ce qu'elle a les moyens de tenir, qui plus est?
Voilà, les signes les plus préoccupants pour le système de Damas, c'est que le pilier du régime syrien, c'est-à-dire les patrons de son appareil sécuritaire, les fameux mohabarat, les gens des services secrets, se sont battus considérablement récemment. L'un des plus puissants d'entre eux, Rostom Razaleh, a été molesté par les sbires d'un de ses adversaires, d'un de ses rivaux. On l'a mis dans une clinique privée où apparemment on l'a fait mourir dans d'atroces souffrances en lui injectant des produits létaux. Un autre est mis aux arrêts de rigueur. Donc tout ça donne des sentiments très compliqués d'arbitrage du pouvoir à Damas, avec un rôle de l'Iran sur place qui est de plus en plus décisif, parce que ce sont eux qui payent, ce sont eux qui commandent, qui font la guerre, etc. Et un rôle aussi du Hezbollah qui agit du point de vue des intérêts.
Quand vous dites ce sont eux, c'est pas seulement de l'argent, quoi, ce sont des hommes, des soldats, des militaires.
Bien sûr, les passes d'Aran sont présents. Et les Alaouites, qui sont aujourd'hui la seule population fiable sur laquelle peut s'appuyer le régime de Damas, qui est au maximum 10% de la population, sont épuisés, un certain nombre n'y croient plus. Et donc, vous ne pouvez pas, quand vous êtes Bachar al-Assad, engager l'infanterie sunnite pour lutter contre les rebelles. Ils vont déserter. Ce pourquoi ils ont dû faire venir, pour faire le boulot, l'infanterie, c'est le Hezbollah. Ce sont des chiites d'Afghanistan mal formés, des Irakiens et surtout des Pasdaran. Et ceux-là ne sont peut-être plus aujourd'hui en nombre suffisant. Donc c'est ça qui a fait également que à l'intérieur du régime, tous ces dignitaires, dont un certain nombre sont sunnites, n'ont pas voulu se faire dicter leurs conditions directement par Téhéran. D'où les tensions à l'intérieur. Bon, alors maintenant, c'est très difficile d'aller plus loin, parce que pour connaître le ressort des services syriens de l'intérieur, ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas. Mais en tout cas, c'est ce sentiment-là qui prévaut aujourd'hui, c'est que vraiment le régime est dans un état d'assez grand affaiblissement, sans qu'on puisse imaginer que l'Iran ne mettent pas tout ce qu'il faut aujourd'hui dans la bataille pour empêcher l'effondrement de son allié.
Oui, mais enfin, ça, nous allons y revenir, sauf qu'ils sont, si j'ose dire, le postérieur entre deux chaises.
Oui, tout à fait.
Par rapport à l'enjeu de la fin du mois de juin.
Exactement. Hein,
et donc, cet enjeu-là.
Tout à fait.
Ils doivent choisir ou pas?
Il voudrait bien ne pas choisir, mais c'est très difficile.
C'est très difficile.
Et le changement, c'est le roi Salman, si vous voulez. C'est lui qui a décidé, pour faire échouer l'accord américano-iranien, qui a décidé de mettre toutes ses forces dans la bataille pour faire mettre sur Damas une pression énorme, et aussi pour prendre Damas avant Daesh.
Ange Vinti qui réalise l'émission, qui veut détendre l'atmosphère, nous programme cette petite musique Rencontre de la Grèce et de l'Orient, Gilles Kepel. Nous revenons avec vous, Claude Guibal, tout à l'heure sur les questions évidemment concernant cette actualité. Après Palmyre, Damas, faut-il y mettre un point d'interrogation ou un point d'exclamation? C'est ce que nous verrons. Et puis surtout, que se passera-t-il aussi autour, sur les questions géopolitiques, le rôle des Américains, des Alliés, le rôle des Russes, le rôle des Iraniens déjà qu'on a un peu évoqué, et puis toute la question du Moyen-Orient au fond, avec ce qui pour vous est tout de même un moment important de l'histoire de ce début du XXIe siècle. Il y a quelque chose qui se joue là, pas seulement Armageddon, mais...
Oui, enfin, c'est... Hein? Excusez du peu. Oui, effectivement, je crois qu'il y a... C'est très important. Il faut bien voir qu'on est en train de traiter les enjeux d'un cycle qui a commencé à la fin des années 70 avec la République islamique proclamée, avec le retour de Khomeini, de Naufle-le-Château.
De chez nous,
absolument,
par la France.
À Téhéran le 1er février 79 et l'invasion soviétique en Afghanistan fin 79. Vous voyez, avec l'entrée du chiisme révolutionnaire, la réaction du sunnisme radical avec le financement du djihad en Afghanistan, et donc ces forces qui se sont mises en place depuis maintenant 40 ans, qui ont passé leur temps à se chercher, à se tendre.
Et là, ça y est.
Voilà. Et là, on voit que les Américains essayent de bouger quelque chose de fort en remettant l'Iran en jeu du côté occidental. Qu'est-ce qui va en advenir? La réponse après l'été.
Gilles Kepel, invité des matins, vous retrouve à 8h15 dans la deuxième partie, introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc, bonjour Gilles Kepel, bonjour à tous. Oui, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi les États-Unis sont-ils passés de l'interventionnisme brouillon et tout azimut de Bush à l'excès de prudence d'Obama? Pourquoi n'arment-ils pas les Kurdes qui ont le cœur de combattre mais pas les armes, plutôt que l'armée irakienne qui a les armes mais pas le cœur? Comme le dit ce matin dans une interview au Figaro, le général Barbero.
Voilà, vous avez 15 minutes pour trouver toutes les réponses, Gilles Kepel.